RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Il est 9h10, le débat du jour avec au sommaire ce matin les Français et l'au-delà. Qui croit encore à la vie éternelle ? On va analyser les résultats d'un sondage paru cette semaine. Jeunes et saints, les nouveaux canonisés sont-ils de plus en plus jeunes ? De Carlo Acutis à Pierre Giorgio Frassati, un vent de jeunesse souffle parmi les nouveaux portraits de saints. On va regarder tout cela ce matin avec Martin Ferron, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Rédacteur en chef à La Vie, en duplex depuis Vannes. Un grand merci aux équipes morbihannaises qui vous accueillent ce matin. Et Samuel Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter à l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. À tout moment, les auditeurs peuvent réagir direct@radionotredame.com, direct@rcf.fr. Demain a lieu la Toussaint, mais on va plutôt parler de ce qui se passe samedi, la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre. Alors parfois on confond un peu vite ces deux fêtes. Et à l'occasion du 2 novembre, donc, des fidèles défunts, Famille Chrétienne publie un sondage sur le rapport des Français avec l'au-delà. Un tiers des sondés assure n'avoir aucune certitude concernant la vie après la mort, mais laisse la porte ouverte à l'existence d'un autre monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette proportion de gens qui doutent double en 50 ans. Les gens ne savent plus s'ils doivent croire ou ne pas croire. Samuel Pruvot.
Oui, alors c'est très important de rappeler ce chiffre. Alors les sondages, ce ne sont que des sondages, hein. C'est une photographie de l'opinion à l'instant T. Cependant, on avait la conviction à la rédaction de Famille Chrétienne que la France, les Français étaient en train de bouger sur ces questions qui évoquent finalement la vie après la mort, l'au-delà. Et trop vite, on aurait pu penser que l'évolution était juste que, via le consumérisme, via un matérialisme pratique, finalement, la plupart des Français n'avaient pas le temps, ni le désir, ni l'envie de s'interroger sur la vie après la mort. On nous disait tout à l'heure dans une chronique qui était tout à fait passionnante que finalement, peut-être qu'il n'y aurait plus de cimetière dans nos villes parce que la mort aurait disparu. Finalement, nous serions mortels sans le savoir. Bien, de fait, il y a une évolution dans l'opinion française et elle n'est pas du tout celle que nous pourrions croire. C'est effectivement, c'est Jérôme Fourquet qui nous rappelle cela parce que l'IFOP a derrière cet institut, a pour lui en fait une antériorité. Donc ils font des sondages depuis 30, 40, 50 ans. Et en gros, il nous disait, il y a 50 ans, c'était la France qui ressemblait un peu à celle, vous savez, de ce fantastique duo là avec Don Camillo et Pépone. En gros, dans les années 70, il y a ceux qui sont fermement attachés à leur foi athéiste, en disant « après la mort, il n'y a rien, et donc profitons de cette vie pour voter communiste, par exemple, ou pour boire et manger, et puis fêter le Vendredi Saint, de manger de la choucroute, voilà. » Donc ça, c'est une France qui a évidemment disparu. Mmh. Et puis une autre France des années 70, avec une foi en la vie éternelle beaucoup plus forte, affirmée, au moins 50% des Français se disaient « oui, il y a une vie après la mort. »
Et donc c'est ce bloc central qui a considérablement grossi. Martin Ferron, ça vous a étonné ces chiffres-là ?
Alors, je n'ai pas toujours les mêmes intuitions que Famille Chrétienne, mais en l'occurrence, oui, je crois que surtout il faut, et Samuel le dit très bien, que les sondages sont des photographies à l'instant T, mais on sent bien, il suffit d'écouter autour de nous les personnes qui s'interrogent et qui sont sur des parcours de foi très différents, voire pas vraiment de foi exprimée d'une manière rationnelle, d'une manière posée, mais qui s'interroge. Et l'interrogation est quelque chose qui est autorisé dans notre société aujourd'hui. Et quand vous laissez la place à l'interrogation, alors on peut commencer à entendre quelque chose qui est « qu'est-ce qu'il y a après ?» On ne peut pas se satisfaire d'une espèce de rationalité qui est « il n'y a rien, ça se termine là ». Et de plus en plus, je crois que dans le dossier de Famille Chrétienne, vous évoquez les nonnes qui sont sans religion. C'est pas des gens forcément athées qui sont réfractaires, ce sont des gens qui ne se définissent pas par rapport à une appartenance et du coup avec des croyances, mais qui ont une acceptation complète et assez posée et assez paisible des questions, et pas forcément prendre toutes les réponses et de s'affirmer dedans, mais au moins d'accepter ces questions-là. Que cette société est beaucoup plus détendue qu'on ne l'imagine sur ces points qui sont à quoi je crois et qu'est-ce que je peux attendre après.
Effectivement, les nonnes, c'est une notion qui vient des études sociologiques américaines. Pruvot, est-ce que ça veut dire quelque part que la France s'américanise, peut-être qu'on suit un mouvement qui a pu avoir lieu ailleurs il y a quelques années déjà ?
Oui, alors, la France s'américanise de ce côté-là, oui, parce que les nonnes, donc, ce sont, comme le rappelait Martin, ce sont des personnes qui ne sont pas athées, mais qui sont sans religion au sens d'une affiliation religieuse, parce qu'il est encore plus important aux États-Unis que chez nous d'être d'une église particulière. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux aux États-Unis. Mais ce n'est même pas un phénomène uniquement américain. Il y a un essai très important qui vient de sortir. Il n'est pas commandé par Famille Chrétienne ni par l'IFOP, mais il rejoint exactement nos préoccupations de ce matin. C'est un ouvrage de Marcel Gaucher sur le nœud démocratique. Et vous vous souvenez peut-être que c'est le dernier ouvrage d'une trilogie qui avait commencé par un essai qui avait fait du bruit sur la sortie de la religion, en disant dans nos démocraties occidentales, donc les États-Unis en font partie évidemment, les populations ont tendance à sortir de la religion. Et qu'est-ce qui après la religion, on se dit finalement, peut-être comme Jérôme Fourquet, peut-être simplement Ikea qui va remplacer la messe dominicale. Mais l'étonnement, c'est que la sortie de la religion ne veut pas dire la sortie de la spiritualité. Et en gros, dans l'essai de Marcel Gaucher, la fine pointe, c'est de dire que il est très difficile pour des démocraties de vivre en ayant expurgé totalement ce domaine sacré, qu'il s'agisse de la vie après la mort, ou de la raison d'être fraternel entre nous, parce que par exemple, si nous les hommes, nous n'avons pas un même Père au ciel, pour quelle raison profondément pouvons-nous être frères ensemble, et pour quelle raison pouvons-nous pratiquer la fraternité? En fait, il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus que l'individualisme. Et du coup, il y a beaucoup d'indicateurs qui, aujourd'hui, nous disent tous la même chose. Attention, chers auditeurs de Radio Notre-Dame, vous le savez déjà, mais je permets de marteler. RCF, excusez-moi. Oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. En tout cas, c'est une alliance très heureuse, commentaire qui n'engage que moi. En tout cas, chers auditeurs RCF Radio Notre-Dame, je vous dis quelque chose que vous avez expérimenté vous-même dans votre vie quotidienne. Ne croyez pas à ces prophètes de mauvaise augure qui vous disent en France « la religion n'a pas d'avenir, la spiritualité n'a pas d'avenir ». Au contraire, en fait, il y a de plus en plus de Français qui cherchent. On pourra revenir une ou deux minutes, d'ailleurs, qui sont les catégories qui cherchent le plus. Et ces Français cherchent, ils ont beaucoup de questions. Ils ne vont pas gober, effectivement, le credo catholique qu'on prendrait un bonbon quand on a mal à la gorge. En revanche,
ils s'interrogent.
Et la question...
Quelle catégorie, dites-le-nous, quelle catégorie elle s'interroge?
Alors, ce qui est étonnant, c'est, je vais vous donner deux paradoxes. C'est plus les Français sont jeunes, c'est-à-dire ils ont, par exemple, la catégorie des moins de 35 ans, s'interrogent beaucoup plus que les catégories plus âgées.
C'est pas la proximité avec la mort, en fait, qui fait réfléchir.
Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, ce qui fait réfléchir, enfin, selon Jérôme Fourquet, je trouve son analyse est captivante, il dit, ceux qui ont 35 ans en France, et moins, n'ont pas été formatés par cette France des années 60-70, où il y avait encore un monde sans religion, une église matérialiste, entre guillemets, qu'il appelle communiste au sens large, et une église catholique, et donc qui croyait en la vie éternelle. Ceux qui ont 35 ans et moins aujourd'hui en France n'ont pas été formés par cette France-là. Donc ils ont un besoin religieux, parce que ce besoin religieux, c'est le propre de l'homme, mais ils n'ont pas de réponse. En revanche, les anciens, plus on est ancien, plus on a été formaté dans cette France d'avant, qui objectivement n'existe plus beaucoup, et donc on est beaucoup plus convaincu qu'il n'y a rien après la mort, ou qu'il y a quelque chose. Donc, pour les catholiques, il y a un boulevard.
Vous êtes un spécialiste de la mission. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot spécialiste de la mission, Samuel Pruvot, mais ça veut dire que désormais, il y a une opportunité marketing, il y a des gens qui doutent, qui sont prêts à entendre n'importe quel discours pourvu qu'il les touche.
C'est exactement ça. Si je reprends les mots de Jérôme Fourquet, qui ne sont pas du tout des mots religieux, il dit que pour la vieille institution catholique, elle n'est pas du tout has-been, mais en revanche, elle a, comme il dit, un boulevard devant elle, et il y a en tout cas des nouvelles parts de marché, alors c'est ses termes, c'est pas les miens, qui s'ouvrent à elle. Encore faut-il qu'elle puisse avoir la volonté, le désir, les moyens d'y mettre des forces humaine. Parce qu'en fait, effectivement, si on passe notre temps, excusez-moi, c'est un commentaire personnel à la veille de la Toussaint, c'est quand même la fête des saints, si on passe notre temps à se chamailler entre nous et à se dire qu'on n'est pas beau et qu'on ne s'entend pas, et que le reste des Français ne nous aime pas, c'est sûr que personne parmi nous catholiques ne prendra fort à l'effort de répondre aux questions de nos voisins, de nos compatriotes. Mais si jamais on arrête de se chamailler entre nous et on s'intéresse à nos voisins, peut-être que le catholicisme a de l'avenir dans notre pays.
Je me tourne vers Martin Ferron. Est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce qu'il y a là une opportunité marketing?
Je ne suis pas très fan de ces termes-là. Je pense que Samuel également, qui n'est pas un spécialiste en mission, qui est un missionnaire en activité permanente, Samuel.
Merci, Martin.
Mais voilà. Et quand on parle d'autoroute, pour l'Église ou pour les catholiques, je pense qu'il faut pour garder l'image, hein, il ne faut pas border cette auto avec des barrières suffisamment hautes pour qu'on n'y rentre pas. Il faut justement que les toutes personnes puissent un jour interpeller, à un moment donné, quelqu'un qui est témoin de sa foi et qui le montre déjà, parce que je pense que toutes les générations notamment sont très sensibles à l'expérience personnelle, ce qui est comme fondatrice pour eux, c'est-à-dire ce que tu vis est authentique, donc je le respecte, et à ce moment-là je peux t'entendre. Et il faut aussi pouvoir commencer à interroger les personnes avant de leur affirmer des choses. Je pense que Samuel est convaincu, il n'hésite pas à monter sur une caisse en bois pour parler aux personnes. Je pense que déjà ça c'est un geste d'interpellation, mais avant et après cela, la grande force c'est de pouvoir écouter les questions, parce que tant que vous n'écoutez pas les questions des personnes, vous les rejoignez pas. Et c'est ça, cette espèce de voix, effectivement, de voix forte et intense, parce que le catholicisme ou le christianisme au sens large a quelque chose à dire, mais il a avant tout quelque chose à entendre pour dire, voilà, comment ça résonne pour moi, croyant, avec ma foi, voilà ce que tu me dis, ou si tu as des questions précises, je peux te répondre, même que je ne sais pas ce que tu te réponds là précisément, mais je peux te dire comment moi je ressens les choses, par rapport à toute ma tradition, ce que j'ai reçu, et ce qui m'anime. Si c'est uniquement des documents qu'on va opposer à des questions très formelles, on s'en sortira pas. Je crois que c'est par le témoignage avant tout.
C'est drôle parce que là on est parti de la mort, la vie après la mort, très vite on est arrivé sur le terrain de la mission. C'est étonnant. Non, Samuel Pruvot.
Alors, en fait, c'était volontaire. Il y a un livre, je suis désolé, je cite toujours les mêmes sources, mais parce que nous avons travaillé ensemble ces dernières semaines, il y a un livre au seuil qui paraît, je pense que ça sera un grand succès comme les précédents, sinon plus, un livre de Jérôme Fourquet qui s'intitule « Métamorphose au pluriel française ». Alors, il y a plusieurs métamorphoses, évidemment, mais parmi les métamorphoses, il y a, dit-il, l'effondrement de la matrice catholique. Et donc, comme la nature a horreur du vide, il y a d'autres processus spirituels ou d'autres offres entre guillemets spirituelles qui se mettent en place dans notre pays. Et donc, pour répondre à votre question, il y a un élément de vérification qui est très important, c'est notre rapport à nos défunts et notre rapport à la vie après la mort, parce qu'il est déterminant, c'est un marqueur de la recherche ou de la non-recherche de nos contemporains, de leur appétit, de leur soif spirituelle. Et là, en fait, ce que le sondage que nous publions dans Famille Chrétienne nous dit, c'est un, qu'il y a des attentes, des questions, comme le souligne très bien Martin, et d'autre part que, comme les réponses viennent difficilement, eh bien les Français, naturellement et logiquement, vont chercher un peu partout des réponses. Alors pas seulement sur Wikipédia, mais un peu partout. Et forcément, pour nous chrétiens catholiques, c'est parfois un peu désolant et pitoyable, tout simplement parce qu'on a de bons amis, de bons voisins, des compatriotes qui pourraient se contenter de se nourrir d'ersatz, alors que nous avons eu la chance de recevoir un trésor qui, pour le coup, est bio à 150%, qui est le trésor qui nous vient de l'Église et de Dieu, quoi.
Martin Ferron, le moment de la mort, ce moment si particulier pour les familles aussi qui entourent le défunt, c'est aussi là un moment important dans je voulais encore dire que j'utilise un vocabulaire marketing, mais stratégie missionnaire, ou en tout cas dans l'occasion de parler de Dieu.
C'est fondamental. Je pense que l'Église a compris depuis un moment maintenant que tous ces rites de passage, quels qu'ils soient, même un baptême est l'occasion d'une forme d'évangélisation. Un mariage est un temps d'évangélisation pour l'assemblée qui vient, plutôt que de marquer le coup en disant « je sais que parmi vous, dans l'assemblée, certains ne viennent jamais à l'Église », qui déjà en exclut un paquet. Je supporte pas ça, je vous avoue qu'au début d'une célébration, pour moi, ça c'est un tue-l'amour de la foi extraordinaire. En revanche, accueillir toute personne en lui disant « soyez tous les bienvenus », sans distinction, c'est totalement différent. Et puis ensuite, de penser à tout le monde, de penser comme quand on fait une conférence à la dernière personne au dernier rang qui est en train de s'endormir légèrement, penser à elle comme celle qui est au premier rang, très attentive, qui prend des notes. Mais je crois que c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas que la personne concernée qui est en premier lieu, qui est importante. Tout le monde est important pour passer un message qui est un message d'amour. Et dans le cadre des obsèques, moi j'ai vécu des obsèques extraordinaire. J'en ai vécu récemment qui étaient expédiés, qui étaient vraiment des obsèques techniques. On va dire qu'à un moment donné, je me suis tourné vers mon épouse et je lui ai dit, je crois qu'il s'est mis en mode automatique, le prêtre.
Des obsèques techniques, il faut juste nous expliquer ce que c'est, Martin
Ferron. Non, mais c'est voilà, un petit peu technique. Il y a une liturgie spécifique et puis vous sentez qu'à un moment donné, on est sorti de la liturgie spécifique, on va à la fin bénir le cercueil, mais à un moment donné, on rentre plus dans la liturgie eucharistique. Et là, il y avait un mode automatique parce que le prêtre avait compris que la 90% de l'assemblée n'avait pas vraiment de résonance par rapport à toute une expérience, par rapport à ce qui se vivait là. Et donc, il s'est mis en mode automatique. Et donc, c'était très technique. Donc, lui-même n'était pas très animé parce qu'il pouvait traduire de ce qui se vivait dans l'Eucharistie, ce qui est problématique. Mais en l'occurrence, c'était un petit peu dommage parce que c'est des moments où les personnes peuvent reconnaître quelque chose qu'ils ont connu dans l'enfance, notamment, ou dans l'adolescence, qu'ils ont peut-être rejeté depuis. Pour revenir à la question des morts, moi, je vais vous raconter juste un détail. Je suis venu très tôt ce matin, et il se trouve que j'ai dû prendre un bateau parce que j'habite sur une île, et j'ai traversé une partie de Vannes pour arriver jusqu'au studio, et je suis passé devant le cimetière qui n'était pas ouvert. Il y avait déjà une queue de personnes qui étaient avec leurs fleurs, alors on va dire des chrysanthèmes, ça fait un petit peu marronnier annuel dans notre imaginaire, une mèche d'épinal, et en fait j'étais très touché par ces gens-là. C'est-à-dire, je me suis dit, honorer ses morts, c'est très beau ça, honorer ses morts, et continuer une tradition. Je reviens sur votre question essentielle, lors des obsèques, il y a vraiment quelque chose à dire, parce que la personne qu'on enterre souvent n'est pas forcément à l'aise avec sa propre foi, n'a pas été un bon pratiquant, connaît pas le nom de son curé, qui ne connaît pas son prénom lui-même. Voilà. Pourtant, vous avez très souvent des personnes, et j'en ai connu une récemment, qui, après avoir balancé tout ça, sa femme lui a dit, alors qu'il était en fin de vie, elle lui a dit, et pour tes obsèques, qu'est-ce que tu voudrais? Il se parlait très sincèrement, et il lui a elle lui a dit, est-ce que tu veux une messe? Et lui, il lui a dit, ça peut pas faire de mal. Et je pense que on peut ricaner, ou on peut être, vous pouvez avoir des prêtres qui sont choqués par ça. Je crois vraiment l'important, c'était de se dire, ça peut pas faire de mal, peut-être à lui, j'en sais rien, c'est le fond de son cœur, je le connais pas, ça peut pas faire de mal à ceux qui viennent à ces obsèques, qui vont pas avoir un truc expédié dans le cadre d'un centre funéraire, parce que des fois c'est un petit peu comme ça que ça se passe, quelque chose qui va être marqué. Peut-être qu'il y aura pas d'Eucharistie parce que c'est pas nécessaire, ça s'impose pas. Néanmoins, il y aura une parole d'un prêtre, il y aura un rite, il y aura quelque chose qui sera posé, il y aura de la lumière, il y aura de l'encens, il y aura de l'eau, et le prêtre prendra le temps d'expliquer tout ça geste par geste. Le prêtre ou l'équipe funéraire, et c'est extraordinaire, les équipes, moi je voudrais saluer les équipes funéraires qui sont mises en place dans les paroisses, qui sont très à l'écoute des paroissiens et des personnes extérieures à la paroisse. Je connais beaucoup de cas de personnes complètement extérieures à la paroisse qui me disent, mais on a été accueillis merveilleusement, et la célébration, il n'y a pas eu de prêtre, mais ça s'est très bien passé. Et qui ont comme ça une lumière de foi, d'église, qui s'est allumée quelque part, qu'ils n'oublieront jamais.
En un mot court, Samuel Pruvot, sur ces rites funéraires?
Je voulais juste citer un chiffre de notre sondage. 42% des personnes interrogées disent se recueillir sur la tombe ou l'urne funéraire de leurs proches décédés. Donc on a quasiment un Français sur deux qui a besoin de rites. Et un dernier chiffre, 26% des sondés disent espérer retrouver après leur mort leurs fidèles défunts. Et quand on regarde le détail du sondage, il y a quelque chose de très étonnant. 10% de ceux qui se déclarent athées espèrent aussi retrouver leurs fidèles défunts. Et alors là, comme dit Jérôme Fourquet, c'est pas cartésien.
C'est à lire cette semaine dans Famille chrétienne, ce sondage de l'IFOP dont on parlait dans cette première partie de débat, le débat qui se poursuit.